RCF.
Bonjour, c'est une aventure des sens que promet mon invité. Après nous avoir raconté le résistant polonais et messager du désastre qui touchait les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, Jan Karski, puis une fiction nous emmenant dans le monde du cinéma pour y aborder l'art, la vérité et l'échec, notamment dans son roman « Tiens ferme ta couronne », l'écrivain Yannick Enel publie « La solitude Caravage », un livre sur l'objet de son désir, une peinture... une partie d'une peinture, d'abord, de ce peintre du XVIe siècle, et le défi de mettre par écrit l'émotion ressentie à partir de cette émotion. Yannick Enel raconte la vie et la peinture du Caravage. Yannick Enel, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver ici, et je vais vous demander de nous raconter un souvenir. Que s'est-il passé pour vous en octobre 1982, lorsque vous étiez étudiant dans un lycée militaire de la Sarthe?
Alors j'étais même lycéen, puisque j'avais 15 ans, et si je n'avais pas écrit ce livre, je vous dirais quelle impudeur de me poser cette question, mais quelle impudeur qui est la mienne d'oser la raconter, mais je vais quand même le faire. Il se trouve que j'ai eu une émotion artistique et érotique, il se trouve que ça a coïncidé, voilà. À 15 ans, enfermé, entre guillemets, dans un pensionnat militaire, dans la Sarthe, à La Flèche, le fameux pensionnat où Descartes avait été bien des siècles avant, avec les jésuites. Et voilà un moment d'ennui, vous savez, à la bibliothèque de section du Prytané, le soir, je feuilletais avidement un gros et beau volume de vulgarisation de l'histoire de la peinture italienne, et je suis tombé sur un détail... d'une peinture dont je savais même pas quel en était l'auteur, en noir et blanc. C'était une femme, très belle, évidemment, enfin en tous les cas à mon goût, et avec des boucles blondes, la gorge majestueuse, comme dit Baudelaire, le corsage assez humide, émanant d'une sorte d'effort, de travail qu'elle faisait, mais cet effort restait énigmatique puisque ses bras, enfin, en dessous de ses bras, on voyait pas ce qu'elle faisait. Et surtout, j'étais très frappé par les sourcils qui étaient froncés. Ce froncement de sourcils, vous me direz quelle bizarrerie de s'éprendre d'un froncement de sourcils, mais ce froncement des sourcils rimait avec les lacets qui nouaient très fermement son corsage. Il y avait là quelque chose pour moi de torride, qui m'a révélé à moi-même, voilà, à 15 ans, et qui m'a donné en même temps de l'art et la figure peinte d'une femme.
Sauf qu'il n'y avait qu'une partie du tableau. Sauf qu'il n'y avait qu'une partie. Dans ce livre. Vous l'avez découvert quelques années plus tard à Rome, et dites-nous toujours ce qu'il y a au bout de ses bras, ce que vous ne voyez pas dans ce livre de vulgarisation de la peinture lorsque vous étiez lycéen, qui raconte une toute autre histoire, qui raconte une toute autre émotion qu'il y a dans ce froncement de sourcils.
Bah effectivement, 15 ans plus tard, donc j'ai 30 ans, je suis aux vacances de Pâques avec ma compagne de l'époque à Rome, en voyage touristique, et au Palazzo Barberini, je tombe sur le tableau en entier, je reconnais cette femme, celle qui m'a plu, celle qui a été l'objet de mon désir, enfin. Et mais je me rends compte avec effarement, enfin, de ce qu'elle est en train de faire, à savoir trancher la tête d'un homme, puisqu'il s'agit de Judith, donc la figure biblique de cette femme qui va sauver le peuple juif et la ville de Béthulie, en tranchant la tête d'Holoferne, le roi assyrien qui assiégeait la ville. Voilà.
Un général de Nabucodonosor.
Exactement.
Qui détruisait toutes les villes sur lesquelles il passait.
Et donc je me rends compte, comment dire, je fais l'expérience classique d'Eros et Thanatos en un éclair. Et surtout je me rends compte que j'ai fantasmé sur une tueuse, vous voyez. Et la jeune femme à mes côtés, je raconte ça de manière très circonstanciée, j'espère comique, mais bon, je me rends compte également de ma nigauderie. Elle comprend, elle est intelligente, elle comprend tout de suite qu'au fond, c'est peut-être ma tête qui est en train d'être tranchée par le désir, comme bien souvent les hommes épris de leur propre castration. Voilà, donc c'est cristallisé autour de ce tableau que j'admire toujours aujourd'hui, à 50 ans, quelque chose qui est un condensé libidinal, mais pas que, qui raconte quelque chose comme le salut aussi. Il faut affronter un monstre, il faut tuer en soi et en nous quelque chose pour peut-être accéder au sauvetage, au salut, à la salvation.
Vous venez de dire, Yannick Enel, que ce tableau, il vous intéresse toujours autant, il vous passionne toujours autant, mais est-ce qu'il vous passionne de la même raison? Pour deux questions, hein, c'est cette question du désir que vous avez éprouvé en voyant cette femme, et puis cette question de cette femme qui devient une tueuse. Ces deux dimensions-là, et puis je pourrais rajouter aussi l'inscription biblique de ce tableau. Ces trois dimensions-là, qu'est-ce qu'elles ont changé à votre manière d'apprécier ce tableau, à votre relation à cette peinture du Caravage?
Alors avec le temps, beaucoup de choses ont changé, mais vous savez, c'est bien de vieillir devant la peinture, enfin c'est bien l'une des rares dimensions où c'est bien de vieillir, parce qu'on voit mieux, on est chargé d'une mémoire qui nous fait entrer dans des étincelles sensuelles, dans des détails. Et je dirais aujourd'hui que même si je suis fidèle à cette attraction érotique, c'est plus tellement ça qui m'enchante. Ce qui m'enchante aujourd'hui, c'est le fond noir. C'est ce rideau pourpre, écarlate, peut-être de velours rouge, comme on voit dans les films de David Lynch, vous savez, comme dans Twin Peaks, que je rapproche au fond du Caravage pour sa manière de saisir la criminalité de l'espèce humaine. Voilà, c'est ce fond noir sur lequel surgissent ces figures en clair-obscur. Enfin, c'est cette bataille entre la lumière et les ténèbres, bataille ça, éminemment chrétienne.
Eh oui, et ça, c'est évidemment un des grands thèmes de votre livre, cette question de la couleur, cette question de la lumière, que vous n'avez pas appréciée à sa juste valeur à l'époque.
Si, mais alors premièrement, c'était une pauvre reproduction en noir et blanc. moi, j'aime les peintures reproduites en noir et blanc, je trouve ça c'est joli, mais bon... Du coup, on vit en deux dimensions, enfin, et même pas en une. Et... Non, ce qui me plaît encore aujourd'hui, c'est un tableau que j'ai vu et revu un nombre incalculable de fois, notamment au musée Jacquemart-André lors de la dernière exposition à Paris de quelques tableaux du Caravage. Ce qui me plaît, c'est la manière dont l'ambiguïté même de toute action humaine est inscrite. Cette femme se dresse dans la nuit comme une apparition, dirait Flaubert. Mais elle est en train de commettre le pire des péchés, si je puis dire. Elle est en train de trancher la tête, et de quelle façon? D'une manière abominable, enfin.
Faut peut-être décrire effectivement de manière abominable, c'est-à-dire qu'elle le tranche pas de long, hein, c'est qu'elle a dans sa bras droit une épée ou un poignard, et dans le bras gauche, elle tire vers elle, pour être sûre de bien découper la tête.
C'est la première fois dans l'histoire de la peinture occidentale qu'on a accès à l'instant même du crime, comme dans les romans de Dostoïevski. D'habitude, ça a été souvent figuré, hein, Judith et Holoferne, mais d'habitude, on voit la tête d'Holoferne déjà coupée et tenue comme un trophée par Judith.
Ce qu'on a aussi dans les décollations de Jean-Baptiste, hein, de Saint Jean-Baptiste.
Absolument. Et le Caravage essaye de saisir quelque chose qui relève de l'innommable, qui relève de l'instant impossible à représenter. Et je crois que c'est l'un des premiers. Bon, il y a Rembrandt, il y a le Titien, mais le Caravage est celui qui va essayer de fixer ce qu'il en est de l'irreprésentable. C'est pour ça que c'est une peinture qui a à voir avec le sacré et son combat permanent avec le profane.
Justement, cette dimension sacrée, puisque c'est un tableau qui représente une scène biblique, est-ce que ça a changé aussi là quelque chose à votre désir? Et je rapproche cette question d'une émission que nous avons fait il y a quelques années avec l'historien Pascal Horry, qui, comme vous, Yannick Enel, est aussi passé par le lycée Rennais. Il est de Fougères, lui, natif de Fougères, me semble-t-il. Et lui avait écrit un livre sur une statue de Sainte Thérèse d'Avila dans une des églises romaines.
Santa Vittoria.
Voilà. Donc on est véritablement dans l'extase spirituelle, mais aussi dans ce que cela provoque d'érotisme. Le fait, et lui était aussi un peu troublé par le fait qu'il y ait ces deux dimensions sacrées et érotiques en même temps. Vous, sachant que c'était cette fois-ci un tableau biblique, est-ce que ça a changé quelque chose à votre désir érotique que vous avez pu ressentir?
Ça a confirmé ce désir. On sait tous, je veux pas brusquer les oreilles de nos auditeurs, mais on sait tous que la religion chrétienne et que le catholicisme est aussi une affirmation de sensualité. Moi, j'ai jamais cru une seule seconde que le catholicisme relevait du puritanisme. Alors, l'organisation du clergé, c'est autre chose. Mais la contre-réforme et surtout le concile de Trente, dont le Caravage est la grande émanation, a pour consigne d'élargir l'éventail de l'art dans les églises pour faire venir les fidèles, aussi pour montrer la vérité la plus crue. Au fond, dans la Bible, il s'agit constamment de massacre et de sexe.
Ouais. Mais effectivement, comme la statue de Sainte Thérèse d'Avila, on est sur cette époque de la contre-réforme, donc la réforme catholique qui répond à la réforme protestante et qui passe par l'art, mettre les passions les plus extrêmes en scène et bref, se servir de l'art comme outil de communication pour convaincre les catholiques.
Bien sûr.
Là, le Caravage et ce tableau-là, pour vous, s'inscrit complètement là-dedans.
Ah oui, je crois, parce que on a vraiment l'impression, et ce, encore une fois, ce rideau rouge, ce rideau écarlate au fond qui rime évidemment avec le jaillissement du sang de la tête de Holoferne, et comme le voile dans les évangiles qui se lève au fond, ce que le Caravage nous donne à voir, c'est la vérité. La vérité, c'est ce qu'il y a de plus intense, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus délicat, c'est aussi ce qu'il y a de plus cru. La vérité, c'est le sang qui coule, c'est aussi l'étreinte sexuelle, c'est aussi le battement de cœur. Et je crois que moi, je me suis interrogé pendant un an, pendant lequel j'écrivais ce livre, sur la croyance du Caravage. Parce qu'évidemment, ce personnage haut en couleur, qui est totalement irascible, bagarreur, qui est un osseur, enfin, qui fréquente les prostituées, qui fréquente ce qu'un président de la République a appelé la racaille, est aussi l'homme le plus distingué du monde. L'homme dont la palette est la plus nuancée, c'est le plus grand des amoureux. Enfin, on peut pas peindre comme ça si on est une brute. Et je me disais que cet homme ne peut pas être athée. D'une part, ça n'existe pas au XVIe siècle, au fond. C'est pas vraiment un libre penseur, c'est un homme dont la piété est sauvage. Un peu comme Pasolini, je dirais, au XXe siècle. Une piété très sauvage. C'est un catholique extrême qui a du mal à baisser son genou devant les autorités, même devant l'Église, encore moins devant le pape. Mais c'est quelqu'un de très chrétien, voilà, c'est un homme du sacré, c'est les plus beaux tableaux sacrés qui existent.
Ouais, il en a fait un paquet, hein, des tableaux sacrés. On va y venir dans un instant, puisqu'avec ce livre, Yannick Enel, La solitude Caravage, vous revenez sur ce tableau qui vous a marqué pour ensuite retracer une histoire du Caravage. Et ça, on y vient dans une poignée de secondes. Poupidou, poupidou.
Regard, Arnaud Vasmer sur RCF Alpha.
Nous sommes avec l'écrivain Yannick Enel qui publie La solitude Caravage aux éditions Fayard, livre dans lequel vous revenez sur un coup de foudre, je puis dire, hein, oui. Voilà, que vous avez vécu en 1982 en découvrant dans un livre une partie d'un tableau représentant la Judith biblique, mettant à mort décapitant Holoferne, un général du roi Nabucodonosor, peinture de Caravage. Donc je rappelle, vous avez découvert plus tard l'intégralité du tableau, mais aussi le nom de Caravage, vous l'aviez pas, ou vous, en tout cas, vous ne l'avez pas retenu dans ce livre quand vous étiez lycéen. Et dans ce livre, vous racontez ce tableau et vous racontez aussi le Caravage. Qui est-il d'ailleurs le Caravage au moment où il peint ce tableau? Il n'a pas 30 ans, il n'est pas encore le grand Caravage.
Il a à peu près 25 ans. C'est un jeune homme qui vient de Milan, c'est un Lombard. Il est né dans le village de Caravaggio, d'où son nom, parce qu'il s'appelle Merisi en réalité. On l'appelle le Caravage. Et c'est quelqu'un qui, on n'a pas beaucoup d'archives, hein, sur ses débuts, disons, mais c'est quelqu'un qui va manifester d'emblée dans les ateliers dans lesquels il travaille, que on appelle ça aujourd'hui l'apprentissage, auprès du cavalier d'Arpin notamment, qui va l'assigner à faire des fruits, des fleurs. Il manifeste d'emblée, un don absolu. Enfin, moi, j'ai essayé d'enquêter pour savoir comment est-ce que c'était arrivé, au fond, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Je suis pas un historien d'art non plus, mais j'ai quand même mis tout ce qu'on pouvait savoir, tout ce que j'ai lu en italien et en français dans ce livre. Je l'ai condensé. Et c'est quelqu'un qui va arriver sur la scène artistique très houleuse, un peu catastrophé de Rome. Faut pas oublier que Rome a été mise à sac 50 ans avant. Et le marché, comme on dit aujourd'hui, le marché culturel est très réduit. Il y a les prélats qui commandent des tableaux. Tout le monde se bat et on se bat vraiment. Les peintres se battent en duel pour obtenir de peindre telle ou telle chapelle. Et Caravage est un peintre qui, au début, pour s'affirmer, va peindre 5 ou 6 tableaux de ragazzi, comme on dit, des jeunes hommes un peu insolents, enfin, qu'il trouve dans la rue. Parfois, c'est lui-même, il se peint en miroir. Et il met des grappes de raisin sur la tête de ces jeunes hommes et il dit, voilà, c'est Bacchus. Et il y a dans chacun de ses premiers tableaux D'une part, c'est génial d'emblée, hein, mais il y a une invitation très ambiguë que je déchiffre comme étant sexuelle. Enfin, je crois que ça va de soi quand on les a face à soi dans un musée. Des invitations sexuelles très très contemporaines. Ça va très très loin. Il y a quelque chose, je vais jusqu'à dire qu'il y a quelque chose d'un peu anarchiste chez le jeune Caravage, de très païen évidemment, mais quelque chose va tourner, va virer à partir du moment où il découvre le fond noir. Voilà, je pense que sa grande invention c'est ça. Moi ça me fascine, le noir chez le Caravage, dont on dit que ça viendrait de d'ossements d'animaux, peut-être même d'ossements d'humains. Ses camarades allaient dans les cimetières piller des tombes. Ça se faisait beaucoup à la fin de la Renaissance et au début comme ça de
pour 16e. Les médecins et pour les artistes.
Exactement. Et donc il y aurait dans le pigment, dans la matière même, dans la texture de la peinture, il y aurait des morts en fait. Et donc les morts sont sans cesse recyclé, si je puis dire, le mot est un peu laid, mais il y a une mémoire de l'humanité dont l'art, pour le coup, très très concrètement, est la l'héritière, voilà.
Je reviens à ce que vous avez dit au début de votre réponse, Yannick Enel, dans votre volonté d'écrire la vie du Caravage, que vous avez mis tout ce que vous avez pu lire en français, en italien sur le peintre, mais cependant, est-ce qu'il reste pour vous un mystère en partie? Alors, vous l'avez dit pour le début de sa vie, hein, pour enfin, de sa vie artistique, mais le Caravage est un peintre, ce fut un homme, mais c'est aussi une légende, c'est-à-dire est-ce que le temps n'a pas aussi transformé, même dans les récits que vous avez pu écrire, le Caravage, parce que peintre génial, mais enfin meurtrier aussi, parce qu'en Henrique se passe très mal, et puis il n'a pas non plus très très bien terminé, ça, il reste un personnage sulfureux.
C'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle aujourd'hui un casier judiciaire très bien rempli, il a passé beaucoup de temps en prison. Bon, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui... C'est très étrange la vie de ce peintre, il est à la fois une légende parce qu'il a fait les 400 coups, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il était irascible, bagarreur, véhément, c'était un homme violent, voilà. Et en même temps, c'était quelqu'un qui a eu un très gros succès, qui a gagné beaucoup d'argent, qui a tout dilapidé, hein, dans la boisson, les prostituées, le je sais pas quoi d'ailleurs, et qui était protégé par le cardinal Del Monte, l'un des prélats les plus intello, on dirait aujourd'hui, enfin les plus avancés, amis des astronomes, enfin. Et voilà, moi ce qui m'intéressait c'était, alors je raconte et je jubile en racontant tout ce qu'on sait de légendaire entre guillemets, mais de vérifiable, hein, les casiers judiciaires ça se lit, hein, ça reste. Mais ce qui m'intéressait c'était quand même l'expérience intérieure. C'est un homme qui, au-delà de l'aspect sulfureux, c'est un homme qui a passé sa vie à peindre. Les écrivains écrivent, les peintres peignent. Voilà, on oublie souvent que c'est du boulot. Enfin. Et donc, il était dans son atelier, plongé dans le noir. Et il avait une conception très particulière de la lumière, au fond, comme Bacon d'ailleurs. Je les rapproche beaucoup, Francis Bacon et Caravage. Bacon, j'ai visité son atelier, la reconstitution de son atelier à Dublin. Et il y a une petite trappe en haut, la lumière arrive à peine. Enfin. Et le Caravage aimait plonger ses modèles, encore une fois des prostituées, des petites canailles, enfin des diseuses de bonne aventure qu'il amenait, et il leur faisait prendre des poses, c'est des tableaux vivants, vous voyez. Et il est plongé dans le noir, et puis il ouvrait un tout petit peu la fenêtre, voilà, pour faire passer un rayon de lumière latérale qu'on retrouve dans à peu près tous ses tableaux. La lumière vient toujours de la droite ou de la gauche, bon, enfin elle est latérale. Et ce qui change des peintures de la Renaissance où le sacré vient d'en haut. Enfin.
Ouais. Et là aussi, on peut jouer avec la nature des corps, hein, quand on a une lumière qui vient de loin, parce que vous l'avez dit sur l'importance du corps, le corps nu, le corps sexuel. Oui. Judith, la première version, était nue aussi, mais à côté, il y a une femme assez âgée, donc avec un corps qui connaît la déchéance. Vous avez parlé des morts, mais ça, il l'a expérimenté aussi de près, en voyant notamment le corps de son père, quand il était très très jeune, la déchéance, et puis la mort. Est-ce que la lumière lui permet pas un peu de cacher cette dimension-là?
Moi, je pense que c'est le grand théâtre d'ombre et de lumière dont le Caravage et l'inventeur et le témoin relèvent de ce qu'il en est de la mort. De la même manière qu'au XVIIe siècle, dans les sermons et dans les oraisons funèbres de Bossuet, il s'agit d'inviter à la modestie le roi de France et d'ouvrir le tombeau par des mots devant lui et de dire « Vous êtes un prince, vous êtes un roi, mais nous ne sommes rien ». De la même manière, le Caravage, dans ses tableaux, va sans cesse ouvrir cette fenêtre de lumière vers l'enfer qu'est la vie humaine aussi. Enfin, c'est pas la vie humaine qui est infernale, ce sont les hommes qui sont infernaux. Les hommes font n'importe quoi, enfin, à commencer par s'entretuer. Et aussi, il introduit très vite, à partir du moment où il obtient sa première commande dans l'église Saint-Louis des Français en 1597-1598, et qu'on lui demande de peindre des épisodes de la vie de Saint-Matthieu, il introduit le Christ dans ses tableaux. Là, tout va changer.
Pas facile hein, de représenter le Christ, et qu'est-ce qu'il en a fait des Christ, le Caravage hein. Parce que Judith, certes c'est un motif récurrent, oui. Mais qui n'est pas le motif le plus connu du grand public.
Absolument.
Et le Christ, il en a fait beaucoup, beaucoup, mais est-ce que c'est toujours le même?
Non, alors justement, bon, moi pour le dire comme ça, pour le dire plaisamment, dans mon itinéraire et dans le livre, je suis passé de la Judith au Christ. Ouais. J'aime les deux.
Ça tombe bien.
J'ai des préférences érotiques, disons, mais bon, voilà, ça... Voir à quel point le Caravage, de tableau en tableau, approfondit son rapport avec les béatitudes, avec les évangiles qu'il connaît mieux que personne. C'était pas du tout un... Il avait des attitudes de voyou, mais c'était un savant aussi, le Caravage. On peut pas peindre ça, encore une fois, si on est une brute. Voir à quel point il se rapproche centimètre par centimètre. Moi, je suis allé voir hein, tous les tableaux, et bêtement, j'ai aussi mesuré, vous voyez, parce que ça me renvoyait à mes propres questionnements spirituels. Enfin,
oui, c'est aussi une quête spirituelle, ce livre.
Vous savez, je me suis remis à écrire la nuit pour ce livre. Avant, depuis que j'ai un enfant, j'écris le matin. Voilà. La nuit, je préfère garder des forces pour les dépenser. parce que je sais qu'on va me les dépenser, un petit être va me les dépenser. Mais je me suis remis à écrire la nuit pour m'accorder à ce mystère nocturne. Qu'il y a dans le Caravage. Et franchement, vous savez, quand on écrit un livre, on se monte un peu le bourrichon, comme dit Flaubert. À un moment, faut y aller, quoi. Il faut s'y croire, comme on dit à la campagne. Et il y a eu un moment où vraiment, le dernier mois d'écriture, où aux éditions Fayard, c'était très gentil, ils m'attendaient, les délais étaient dépassés depuis bien longtemps, mais je savais que quelque chose allait se passer. Je remettais sans cesse au lendemain le chapitre où j'affronte ce qui se passe entre le Caravage et le Christ. Il y a eu un moment où je me disais, j'étais porté par ça. Enfin, je voyais des choses inouïes. Enfin, je sais pas si j'ai écrit des choses intéressantes, mais je voyais, moi, des choses inouïes. Et ça m'a, au fond, en regardant le Caravage, j'ai mieux aimé ce qui se passe dans les évangiles.
Mieux compris, mieux...
Pareil, vous savez que la compréhension, ça s'appelle l'amour. Enfin, c'est... Moi, je suis un lecteur des textes spirituels et j'aime les saints et les saintes, mais encore une fois, j'aime la violence qu'il y a en eux. J'aime le péché, voilà. J'ose le dire.
C'est pas bien,
mais j'ai découvert aussi en lisant Maître Eckhart, Saint Augustin, pour écrire ce livre. Je sais pas si le Caravage le savait, bien sûr que non, que le péché est prévu dans le grand programme et que c'est pas parce qu'on pêche qu'on est privé de la grâce, au fond. Et c'est pas parce qu'on ne pêche pas que la grâce nous est attribuée d'entrée, voilà. Donc tout ça est très, je le dis de manière un peu bête et volontairement rieuse, mais ce sont des choses très fondamentales dont je pense que la peinture du Caravage est imprégnée.
Vous avez dit à plusieurs reprises, Yannick Enel, depuis le début de cette émission, on ne peut pas peindre ça si on est une brute. Peut-on peindre ça si on est violent? Parce que il y a des mots comme ça qui jaillissent de votre texte. Il y a le mot donc sacré, il y a le mot mort, il y a le mot lumière et noir, il y a le mot feu aussi qui revient très souvent. Le mot solitude, je le garde évidemment pour dans un instant. Mais il y a aussi le mot violence qui parfois va avec le mot excès, qui parfois avec le mot transgression, qui parcourt votre livre. Alors est-ce qu'on peut peindre ça si on est violent?
Moi, je le pense. Enfin, je ne dis pas que l'œuvre est toujours le reflet de la vie, mais regardez la peinture de Chardin, par exemple. C'est un homme très sage. Sa peinture, elle est très belle. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça, mais il ne s'y passe rien de ce qui habite les passions humaines les plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est que l'extrémité de la vie? Enfin, pourquoi est-ce qu'on se fait tant de mal quand on s'aime? Pourquoi est-ce qu'on se fait tant de bien? Pourquoi est-ce qu'on se cherche ainsi dans les ténèbres? Pourquoi cette obscurité dans le comportement des humains? Enfin, c'est pas chez Chardin qu'on va trouver la réponse. C'est pas son problème à Chardin. Le Caravage est entièrement travaillé par quelque chose qui relève de la violence de vivre, de la violence de respirer, de la violence d'aimer. Et c'est une violence dont j'ai envie de dire que c'est une belle violence. Une violence qui ouvre aussi. Je sais pas, mais Jésus, me semble-t-il, est aussi venu le glaive à la main.
Porter le glaive, voilà, pour séparer le père du fils, etc.
Il s'agit de séparer. C'est une peinture de la non-réconciliation, celle du Caravage. En cela, elle est très, très catholique. elle est, il y a quelque chose qui brille dans les ténèbres. Je sais pas si le Caravage, et c'est ça, vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'on sait, c'est très énigmatique. Est-ce
que entre la légende et la réalité.
Voilà. Ouais. Est-ce que le Caravage voit dans cette lueur qu'il ne cesse de peindre quelque chose qui relève de la rédemption?
Ouais, ça va être ma question, ouais.
Personne ne peut le savoir, mais ouais. On a déjà du mal à le savoir pour soi. Les tableaux du Caravage, il n'y en a qu'une soixantaine, finalement. On lui en a beaucoup attribué. Ces tableaux-là, chaque fois que je les vois, même quand je vois un petit giton comme ça, un peu, à l'épaule dénudée, dont je sens bien que l'ambiguïté est un peu malsaine. Même ces tableaux-là, c'est pas mes préférés, mais même tous les tableaux du Caravage me font penser et me font aimer. Je pense que la pensée et l'amour, on pourrait dire qu'il y a un point où c'est la même chose.
Il nous reste quelques minutes. Alors, il faut qu'on explique effectivement le mot solitude, hein, qui est aussi évidemment un mot qui traverse votre livre et que vous avez choisi en titre de votre livre, Yannick Enel, La solitude. Caravage, en quoi y a-t-il eu solitude chez cet homme qui a d'abord voulu réussir seul avant de comprendre qu'il avait besoin des autres?
Oui, alors il y a ça, évidemment. C'est un homme très orgueilleux. Mais je pense que les artistes le sont toujours. Et c'est aussi quelqu'un qui a vécu 4 ans les dernières années de sa vie en exil, après avoir tué dans des circonstances que j'essaye d'éclaircir. Voilà, un homme en duel, Ranuncio Tomazoni, qui était un peu une petite ordure, je le dis comme ça.
Et du coup, il est obligé de partir de Rome et il va à Naples.
Caravage, mais bon, voilà, il va à Malte, il va en Sicile, ouais. Il va à Naples. Et la troisième chose, moi, c'est cet aspect de la solitude qui m'intéresse beaucoup, c'est j'ai tendance à penser qu'il y a un point en chacun de nous qui relève de l'intraitable, de l'irréductible, un point où, disons, la société n'a pas prise. Et je pense que chez certaines personnes et chez certains artistes, et en l'occurrence, je sais pas, Rimbaud, Pasolini, le Caravage, que sais-je, Buster Keaton, pourquoi pas, il y a certaines personnes chez qui ce point est très exacerbé. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle des singularités et rien ne peut faire qu'ils dévident leur route. Alors le Caravage, il en paye le prix, il meurt à 39 ans, il n'a que des ennemis. Et voilà, ce point de solitude, qui est aussi la plus belle des choses, où rien n'a de prix sur nous à part l'amour. Et où finalement la servilité ne peut pas entrer. Vous voyez, c'est vraiment un point situé dans le corps, peut-être entre la gorge et le cœur. Et je pense que toute la peinture du Caravage vient de là, de ce point irréductible. Et vous avez remarqué, dans la plupart de ses tableaux, il y a toujours un poignard ou une épée. Et j'ai tendance à voir dans ses bras dressés, qui sont armés, une figuration de la peinture elle-même. Enfin, le Caravage peint au couteau.
T'as découvert donc dans votre livre La solitude Caravage, livre très différent, que j'ai trouvé très différent des précédents, en tous les cas ceux pour lesquels on a déjà fait des émissions ensemble. Et pourtant, Yannick Enel, j'ai eu l'impression que il venait prolonger peut-être une interrogation que vous avez, c'est comment mettre en mots les émotions, comment mettre en mots ce qui est indescriptible, ce qu'on fréquentait déjà dans Tiens, ferme ta couronne, oui. Ce qui est évidemment très évident chez Jan Karski avec cet homme qui est allé dans les camps, qui est allé dans le ghetto de Varsovie et qui s'est donné la mission d'aller dire aux alliés ce qui se passait pendant les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on le retrouve ici dans ce texte à propos de l'émotion qui vous a saisi en voyant ce tableau. L'objet consiste à ressusciter l'émotion ressentie devant une image, c'est-à-dire à réinventer avec des mots ce que nous avons vu et qui nous a troublé, c'est le défi qui vous tient en haleine depuis quelques livres.
Oui, c'est l'éblouissement. Comment dire l'éblouissement? Et puis aussi cette question qui s'est approfondie grâce au Caravage, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la nuit, au fond? Est-ce qu'il y a un bout de la nuit? C'est pour ça que ce livre, vous avez raison, il est un peu différent. Bon, d'une part parce que c'est pas un roman, mais et que je me suis consacré à quelqu'un d'autre, enfin un grand autre, le Caravage. Mais c'est aussi que des questions plus directement spirituels se sont posés à moi. Ouais. Et j'ai pas eu
honte. On avait déjà avec Yann Karski. Hein.
Alors beaucoup, c'est vrai.
Catholique qui prend en charge les Juifs.
Hein. Exactement. Mais là, du coup, je me suis plus dénudé que d'habitude, ouais. Puisque il y a pas de mise en scène romanesque. Et bon, voilà, la question c'est, est-ce qu'il y a de la grâce? Est-ce que la violence est un obstacle à la grâce? Est-ce qu'il y a... Ah, vous voyez, je bute aussi. Là, il faudrait écrire un autre livre pour arriver à dire ces mots-là. Là, j'ai l'impression que c'est pire que d'être nu, de parler comme ça. Mais oui, c'est la question de Dieu. Voilà, c'est sans cesse affronté dans la peinture du Caravage. Et c'est une question qui, évidemment, comment faire autrement? Enfin, c'est une question qui à la fois m'anéantit et me comble, c'est Pascal, évidemment, vous le savez mieux que moi, dans les pensées, qui dit incompréhensible que Dieu soit, incompréhensible qu'il ne soit pas.
Eh oui.
Voilà.
Formidable mot de la fin. La solitude Caravage, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Fayard. Yannick Hennel, un grand merci d'être revenu
merci
nous voir.
Merci.
Et à très bientôt.